Voltaire, le catéchumène traduit du chinois. Des affaires de commerce m'avaient engagé à faire un voyage sur mer. J'étais déjà bien loin des côtes de ma patrie, lorsqu'une tempête affreuse nous fit perdre notre route. Nous passâmes plusieurs jours entre la vie et la mort. Enfin, nous fûmes jetés sur une terre inconnue et forcés de trouver un asile contre la fureur des flots. Je tombai entre les mains d'un peuple rempli d'humanité. Je m'aperçus bientôt qu'il avait perfectionné tous les arts, qu'il pratiquait les vertus et qu'il était doué des plus hautes lumières où l'homme puisse atteindre. Mon admiration égalait ma reconnaissance, mais hélas, il n'est que trop vrai que l'homme décèle toujours par quelque endroit la faiblesse de son être. Ces gens-là avaient pris de l'amitié pour moi comme j'en avais conçu pour eux. Leur douceur, leur honnêteté avaient gagné mon âme. Ils me dirent un jour « De quelle religion êtes-vous ?» Cette question me surprit. Je leur demandai s'il y en avait deux. Ma réponse les fit sourire et je vis qu'ils étaient étonnés de mon ignorance. Ils ajoutèrent « Adorez-vous des dieux de bois, de métal ou de pierre ?» Je haussai les épaules. Ils prirent un air de satisfaction et poursuivirent. « Croyez-vous à Moïse qui fit massacrer 23 000 de ses concitoyens par ordre de Dieu ?» Je fis un mouvement d'indignation. Ils continuèrent et me demandèrent si j'étais disciple de Mahomet qui fendit la lune en deux et qui la cacha dans sa manche. Je ne répondis que par des signes de mépris qui parurent les satisfaire infiniment. « Êtes-vous chrétien ?» me dirent-ils enfin. Je répliquai que je ne savais pas ce qu'ils voulaient dire. Ils parurent fort étonnés. Ils ajoutèrent qu'ils ne connaissaient dans le monde que 4 espèces de religion. « Vous n'en avez donc point ?» me dirent-ils. Je leur répondis vainement que j'étais né dans un pays où l'on adorait un seul Dieu, intelligence suprême et bienfaisante qui a créé le monde et qui le gouverne, qui récompense dans une autre vie les bonnes actions que l'homme a faites dans celle-ci, que notre culte consistait dans une reconnaissance et une soumission sans bornes, et dans l'existence habituelle des vertus, c'est-à-dire de la modération, de la tempérance, de l'humanité, de la bienfaisance et de la justice. « Est-ce tout ? » reprirent-ils. Je leur dis que tout était renfermé dans ce peu de mots. « Et quoi, votre Dieu, ajoutèrent-ils, n'a point fait de miracle ?»« Il a créé le ciel et la terre, répondis-je modestement. Que voulez-vous de plus ?»« Quoi, point de mystère, de prêtre, de cérémonie ?» Je baissai la tête et leur dis que je ne les comprenais pas. Je les entendis alors s'écrier entre eux. « Le pauvre homme ! Dans quel accès d'aveuglement, d'ignorance et de barbarie il est plongé ?»« Mon ami, me dit l'un d'eux, nous avons pitié de votre état, nous voulons vous éclairer, remercier Dieu qui vous a conduit de sa main au milieu de nous pour vous instruire et vous convaincre de notre sainte et admirable religion. Notre Dieu se nomme le Christ, nous nous appelons catholiques, vous allez voir Dieu. Mon étonnement serait difficile à exprimer. Et quoi, vous me ferez voir Dieu ? Sans doute, répondirent-ils, vous le verrez tout comme nous. « Oh, nous n'avons pour cela que 4 pas à faire. » Je les suivis donc. Nous approchions d'un édifice immense. Ils me dirent que c'était le temple. Je me fis expliquer ce mot. J'appris avec la plus grande surprise que c'était un bâtiment où résidait leur Dieu. « Et quoi, leur dis-je, vous renfermez Dieu entre 4 murailles ? Cet être immense, infini, qui anime, pénètre, environne des mondes sans nombre ?» Ils me répondirent froidement, « Oh, quand vous verrez notre Dieu, vous ne serez plus si surpris. » J'aperçus des portes, des serrures et des clés à l'entrée de l'édifice. J'en demandai l'explication. « Quoi, le Dieu du ciel et de la terre, vous le tenez sous la clé ?»« Ben, il le faut bien, » dirent-ils, « sans cela on pourrait le voler, le profaner. »« Voler Dieu, le profaner ?» Oh, je passais d'étonnement en étonnement. Nous avancions dans ce qu'ils appelaient le temple. Je demandai où était le dieu qu'on devait me faire voir. Un peu de patience, me dit-on. On me conduisit à l'extrémité de l'édifice. Là, sur une table élevée de quelques marches au-dessus du sol, on me montre une grande niche d'un travail riche et élégant. Dans cette niche, un cercle tout rayonnant d'or et de pierreries attire mes regards. Ce qui m'étonnait, c'était de voir ce cercle rempli d'une espèce de morceau de papier blanc. Je leur demandai ce que c'était. « C'est notre Dieu, » dirent-ils. « Le voilà. » À genoux, profane, adorez le Dieu de l'univers. J'avoue que je n'y voyais pas beaucoup de vraisemblance. Cependant, comme j'ai toujours été avide de m'instruire, je pris la liberté de leur demander pourquoi ils croyaient que le morceau de papier fût Dieu lui-même. « Du papier ? » répliquèrent-ils, « blasphémateur. Mais ce que vous voyez, les poids du papier, c'est un morceau de pâte travaillé avec la plus fine farine. » Non moins étonné qu'auparavant, j'insistais et fis la même demande à l'égard de la feuille de pâte. Alors ils me dirent, « Mais vous ne savez donc pas ignorant que Dieu s'est fait homme ?» Je leur jurais que j'en apprenais la première nouvelle. Je leur demandai pourquoi il s'était fait homme. « Il faut que vous sachiez, reprirent-ils, que le premier homme mangea une pomme malgré la défense de Dieu et que toute sa postérité fut en conséquence condamnée à des supplices éternels. Et une autre fois, les hommes se rendirent si coupables que Dieu se repentit de les avoir créés et dans un mouvement d'humeur, il les noya tous, à l'exception d'un très petit nombre. La postérité de ceux-ci n'en devint pas meilleure. Dieu continuait à être irrité, il s'agissait de réconcilier le genre humain avec lui. Et Dieu le Fils se fit homme pour apaiser Dieu le Père. Cette famille divine ne laissa pas que de m'étonner un peu. Et la fille de Dieu, dis-je alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ils répondirent gravement, mais Dieu n'a point de fille. Ah ah, oui, il n'a que des garçons. Mais dites-moi, à quoi vous connaissez le sexe de ce fils? Ils répondirent, Dieu est incorporel, il n'a point de sexe, il ne peut en avoir. Mais, insistai-je, mais comment Dieu le Père a-t-il produit le Fils, qui ne peut être ni garçon ni fille? Il l'a engendré? Alors, Dieu le Père a donc un sexe, il a donc une femme. Non, rien de tout cela. Oh, mes amis, ne vous servez donc pas de terme qui désigne une opération toute corporelle, mais passons là-dessus. Quand est-ce que le Père a engendré le Fils? Dans toute éternité? Oh, mes amis, il y a encore ici quelques contradictions. Il n'y a pas moyen que l'engendreur et l'engendré soient précisément aussi anciens l'un que l'autre. Accordez-moi au moins une minute. Non, 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 ne vous accorderions pas une seconde. Eh bien, passons encore. Je n'aime point discuter sur ce que je n'entends pas. Dites-moi à présent, votre Dieu n'a-t-il point eu d'autres enfants? Non, mais il y a dans la famille une troisième personne qui procède du Père et du Fils. Procède? Je ne comprends pas cela. Elle n'est donc pas engendrée, celle-là? Ah non, vraiment, prenez garde à ce que vous dites, vous commettriez une hérésie. Eh bien, je vous passe encore votre procession, quoique je n'y entende rien. Oh, monsieur, ce sont des mystères. Mais qu'est-ce que les mystères? Écoutez bien, monsieur, ce sont des choses que Dieu lui-même a révélées aux hommes, tout exprès, afin qu'ils n'y comprissent rien du tout. À merveille, messieurs. Il a voulu humilier leur raison. Ah oui, c'est-à-dire qu'il a voulu leur inspirer du mépris pour le bien le plus précieux qu'ils tiennent de lui. Et vous ne faites donc plus aucun usage de votre raison. Pardonnez-moi, il nous est ordonné de l'employer dans toutes les choses de la vie, excepté lorsqu'il s'agit de religion. Alors ce serait un crime de la consulter. Toujours de mieux en mieux. Mais vous avez donc trois dieux? Point du tout. Trois personnes, oui, à la vérité, dont la première est le Père, la seconde le Fils, et le Verbe ou sa parole, et la troisième l'Esprit. Mais tous les trois ne font qu'un seul Dieu. Remarque bien cela, car c'est une chose importante. Comment, comment, messieurs, trois qui ne font qu'un et un seul qui fait trois. Oui, cela est à la vérité contre toutes les règles de l'arithmétique. Mais vous concevez combien la théologie doit être au-dessus de cette petite science subalterne. Fort bien, et lorsque quelqu'un vous doit trois écus, êtes-vous content s'il ne vous en donne qu'un? Oh, monsieur, si vous voulez rire, mais c'est pas ici matière à plaisanter. C'est encore un mystère. Autant, vous n'êtes pas au bout, c'est ce qui fait notre mérite. Croire ce qui est absurde, voilà, voilà ce qui peut flatter Dieu. D'ailleurs, nous sommes venus à bout d'expliquer tout cela et d'en rendre raison. Ah, et pourriez-vous me faire voir ces explications? Bon, cela vous prendrait trop de temps. Il y a 1700 ans que nous composons sans cesse des volumes d'explications sur toutes ces matières. Et le croiriez-vous, il y a encore des mille incrédules que nous ne pourrons convaincre. Eh bien, je vois un moyen de les ramener. Menacez-les de leur jeter les volumes à la tête. Je parie qu'ils viendront se soumettre à vos pieds. Mais revenons à notre troisième personne. Comment l'appelez-vous? Le Saint-Esprit. Ah, s'est-il fait homme aussi? Au point du tout, il s'est fait pigeon. Fort bien, mes amis. L'un me paraît aussi croyable que l'autre. Bon, nous ne sommes pas bien assurés que ce fût sa forme naturelle, mais toutes les fois qu'il s'est montré aux hommes, il n'a pas manqué de revêtir celle-là. Et vous tenez sans doute ce Dieu dans un pigeonnier. Point du tout, nous ne tenons point du tout. Non plus que Dieu le Père, que vous ne voyez pas là-haut avec des cheveux blancs et une longue barbe. Mais vous peignez sans doute le Fils avec la même barbe et les mêmes cheveux blancs. Oh non, non, vous le voyez là, sous la figure d'un bel homme, d'âge viril comme il convient. Mais s'ils sont aussi anciens l'un que l'autre, il me semble que le Fils a autant de droits que le Père à tous les vénérables signes de vieillesse. Monsieur, il faut de l'ordre en toutes choses. Voudriez donc renverser les lois de la nature et confondre le Père avec le Fils? Celui-ci disait toujours dans sa course mortelle que son père s'était plus grand que lui. Et vous le croyez pourtant sans égal. Sans doute égal, plus grand, quand on veut s'entendre, tout cela en vient au même. On ne peut mieux raisonner. Et le Fils s'est fait homme sans doute de toute éternité. Quelle pitié, mais il n'y a que 1700 ans. Mais de qui, comment est-il né? Bon cher monsieur, il est né d'une vierge. Ah, elle fut très surprise, sans doute. Oh, vous jugez bien. Mais un ange, un esprit céleste, était venu heureusement pour la préparer. Sans cela, vous concevez qu'elle serait morte de frayeur et de honte en accouchant. Vous allez être bien surpris encore. Cette vierge était mariée. Ah, pardonnez-moi, je le suis un peu moins que vous le pensez. Ce mystère, à mon avis, se comprend un peu mieux que les autres. On ne plaisantait point. Son mari ne couchait point avec elle. C'est encore une révélation. Mais enfin, comment cette Vierge conçut-elle? Par l'opération du Saint-Esprit. Ah, eh bien, par exemple, voilà qui est clair. Et l'expression est le plus fort honnête, c'est-à-dire que le pigeon qui procède du Fils a ensuite produit le Fils Dieu-homme. Vous y êtes précisément. Ben, il faut que vous ayez un talent naturel pour débrouiller les généalogies. Et le Fils d'une Vierge et d'un pigeon était véritablement un Dieu? Ben, n'en doutez pas, la chose est si claire, comme vous voyez. Et cet homme Dieu, de quelle espèce de femme naquit-il? D'une charpentière? Ah, j'en suis bien aise pour les charpentiers. Et où naquit-il? Dans une étable, entre un bœuf et un âne, au mois de décembre, par un très grand froid. Mais Dieu n'abandonna pas son fils. L'âne et le bœuf soufflaient sur lui et le réchauffaient. Et n'y avait-il qu'un âne? Non, monsieur. Ah, bon, je conçois bien qu'il n'était pas tout cela. Et quelle vie mena-t-il ensuite? Bien, il passa 30 ans dans la boutique de son père, qui était d'un grand secours dans tous ses ouvrages. Vraiment, je crois que c'était de la besogne bien faite. Ah, messieurs, les belles idées que vous avez de la divinité. Au bout de ses 30 ans, il se mit à prêcher le peuple dans les campagnes. Cela dura quelque temps. Ensuite, les magistrats se mirent de mauvaise humeur, parce qu'ils disaient sans cesse beaucoup de mal des gens riches et en place, et qu'ils prétendaient qu'ils iraient à tous les diables. Il prévit qu'il allait être mis en prison, et il sua de peur sang et eau. Votre Dieu sua de peur! Ah, eh bien, voilà encore un beau trait dans son histoire. On l'arrêta, et par sentence des magistrats, après qu'on lui eut craché au visage, fut mis en croix entre deux voleurs. Oh, franchement, voilà un dieu en fâcheuse posture, ou en bien mauvaise compagnie. Et il mourut. Et il mourut. Et il fut enterré. Et il fut enterré. Eh bien, messieurs, voilà donc qui est fini. Votre dieu est pendu, mort et enterré. Voilà son histoire terminée. Je la trouve d'honneur, on ne peut pas plus amusante. Monsieur, monsieur, vous allez bien vite. Il mourut, il est vrai, pour engager Dieu le Père à pardonner aux hommes. Ah, en considération de ce qu'ils avaient tué son fils? Oh, rien de mieux imaginé, en effet. Mais apprenez que pour témoignage de sa divinité, il se ressuscita lui-même 3 jours après sa mort. En public? Non, secrètement. Et quelle preuve en avez-vous? Le récit de ses disciples. Et que disait tout le peuple? Il niait le fait. Mais fort bien, messieurs, vous êtes aussi heureux en preuve qu'en raisonnement. Et avait-il fait d'autres miracles pendant sa vie? Autant, mais il guérissait tous les possédés. Il séchait les figuiers. Il envoyait les diables dans les troupeaux de cochons. Il remplissait de poissons les filets de ses disciples. Il remettait très proprement les oreilles coupées. Il changeait l'eau en vin lorsqu'il était prié d'assister à des noces. Car il faut vous dire qu'il ne se faisait pas une peine de se trouver à des festins lorsque l'on priait. Ah, vraiment, pour un dieu charpentier, il était tout à fait aimable. Et de plus, je vois qu'il se rendait utile dans les maisons. C'était fort bien à lui. Et voyait-il des femmes? Quelquefois, il était surtout fort indulgent pour les femmes adultères, et sa meilleure amie était une courtisane publique. Il avait gagné son âme au point qu'elle ne voyait plus que par lui. Eh bien, je suis assez content de ce miracle-là. Il marque du talent et un mérite caché. Ah, vous dites bien, monsieur. Il met tant à se cacher que jamais dans sa vie il n'a dit qu'il était Dieu. Et pourtant, vous le croyez, Dieu. Sans doute, ces sectateurs ont disputé longtemps sur cet important article. Il en a été de même du Saint-Esprit, et parce qu'il n'était point parlé de ces trois personnes divines dans les anciennes Écritures. Le Saint-Esprit n'a été reconnu qu'après 1200 ans. Et quant à la divinité de Jésus, il a fallu que 300 ans, 100 ans de disputes, de troubles, de massacres pour décider la chose à son avantage. Ah, ben je suis charmé de cette fortune-là. Ça m'est un peu à tordre, mais que diable, il me semble qu'il doit le dire lui-même. Sans cela, c'est sa faute aussi. Lorsqu'un charpentier est Dieu, comment veut-il qu'on le devine? Il me semble que ce serait encore assez faire que de l'en croire sur sa parole. En vérité, tous les charpentiers du monde n'en peuvent exiger davantage. Mais puisque vous aimez tant ce Dieu homme, sans doute il est né dans votre pays. Oh non, pas du tout. Il naquit, il vécut dans une autre partie du monde. Il me semble que vous cherchez vos dieux bien loin. Apparemment, il avait composé un corps de doctrine et de religion que vous avez cru devoir adopter. Non, il n'a point fait de corps de doctrine. Il n'a point enseigné de nouvelles religions. Il n'a rien composé, rien écrit. Mais ne vous avons-nous pas dit qu'il a mis à cacher ses œuvres? Mais sans défaut, quelques-uns de ses disciples ont écrit son histoire, ses discours, ses pensées. Et c'est ce qui forme le code de votre religion. Il y est annoncé, défini, prescrit exactement. Non, rien de tout cela, on n'y trouve que quelques faits de sa vie, accompagnés de quelques préceptes de morale qu'il répandait çà et là dans les discours. Il y dit lui-même hautement et expressément qu'il est venu accomplir la loi ancienne et non la changer. Ah, il y avait donc avant lui une religion particulière dans le pays où il prit naissance. Oui, vraiment. Alors c'est donc cette religion que vous suivez. Oh, nullement, la nôtre lui est opposée presque dans tous les points. Mais d'où vous est donc venue cette religion nouvelle que vous avouez vous-même n'avoir pas été annoncée ni enseignée par votre Dieu? C'est donc vous qui l'avez faite. Non, nous avons expliqué, commenté, interprété sans cesse pendant 1700 ans tous les discours de notre Dieu et nous en avons tiré une belle suite de dogmes et de mystères tout nouveaux. Ah, vous êtes tous d'accord avec ces explications. Oh, il s'en faut bien. Nous n'avons pas cessé de disputer, de combattre, de nous égorger pour ces diverses interprétations. Alors, je suis fâché de vous le dire, mais voilà une religion qui ne paraît pas attirante. Vous ne vous entendez pas les uns les autres et vous vous égorgez pour cela. Mais je suis fort mal édifié, je vous l'avoue. Il s'ensuivrait de vos principes que Dieu serait venu exprès parmi les hommes pour les engager à se massacrer mutuellement. Votre Dieu ne me plaît point du tout. Mais je vois ce qui vous a fait adopter une religion si extraordinaire. C'est que les habitants où votre Dieu prêcha l'avaient tous embrassé. Oh, c'est encore ce qui vous trompe. Notre Dieu n'y gagna qu'un très petit nombre de disciples. Tous de la lie du peuple, et nous ne vous avons pas dit qu'il fut mis à mort par ordre des magistrats. Quoi, messieurs, ces discours n'ont pas été crus par la nation qui l'instruisait? Non, messieurs. Ces miracles n'ont pas persuadé ceux qui en étaient témoins? Non, monsieur. Et vous croyez à toutes ces choses, vous qui êtes à 1000 lieues et à 1700 ans de distance? Oh, monsieur, il y a explication à tout. Il faut que vous sachiez que Dieu avait envoyé exprès son fils chez ce peuple, et qu'il avait exprès endurci le cœur de ce peuple pour qu'il ne crût pas à son fils. Bien expliqué. En honneur, voilà qui me paraît satisfaisant à l'excès. Faites-moi le plaisir de me dire quel était le nom de ce peuple. On l'appelait le peuple juif. Non, je ne le connais point. Bon, je le crois. Il occupait un si petit et si pauvre pays que sa réputation n'a pu faire beaucoup de chemin. Ben, il n'en était pas moins autrefois le premier peuple de la terre. Dieu l'avait choisi parmi tous les autres pour en faire sa nation favorite. Il le gouvernait par lui-même. Il parlait souvent à ses chefs, mais il ne leur montrait que son derrière. Nous ne finirions pas si nous voulions vous raconter tous les prodiges qui ne cessaient d'opérer en leur faveur. Une fois, entre autres, qu'ils étaient au nombre de 600 000 combattants, il leur donne les moyens de se sauver des mains des ennemis qui les poursuivaient pour les avoir volés par ordre de Dieu. Ah, monsieur, le beau miracle! 600 000 combattants qui s'enfuient! L'admirable idée que vous me donnez de cette brave nation et de son Dieu! Il la chérissait à tel point qu'à la moindre faute qu'elle commettait, il la livrait en proie au peuple voisin, qui la réduisait en esclavage ou la massacrait sans pitié. Et quelquefois aussi, par pure tendresse pour les Juifs, il leur ordonnait de s'égorger mutuellement. Et il y en eut une fois 23 000 mis à mort par leurs propres concitoyens. Et cela par les ordres de Dieu lui-même. Il commanda à un de leurs rois de massacrer jusqu'au dernier homme d'une nation vaincue. Celui-ci eut l'audace de ne pas égorger les hommes hors d'état de se défendre. Et il en fut puni. Un fils de ce roi mangea un peu de miel un jour de bataille et il fut condamné à la mort. Le père et le fils furent proscrits par leur Dieu justement irrité, qui choisit exprès de sa main un nouveau roi. Volussi, à la vérité, coucha avec la femme d'un de ses généraux et fit massacrer le mari. Il eut de cette femme adultère un fils qui rassembla 700 femmes dans son sérail. Mais Dieu les chérit toujours l'un et l'autre. Tous deux furent comblés de bénédictions célestes. Notre Dieu, homme, avait l'honneur de descendre en froide ligne de cette femme adultère. Oh, messieurs, vous me faites frémir. Mais ne vous avons-nous pas déjà dit que la conduite de ce Dieu fut toujours mystérieuse et qui s'est proposé pour objet d'humilier la raison humaine? Le premier législateur de ce peuple, et à qui il fut donné pour chef par Dieu même, était un assassin. Il n'en eut pas moins le don de faire des miracles sans nombre. Il composa un très grand corps de lois civiles et religieuses, que nous conservons encore et que nous révérons comme certainement inspirées par la divinité. Et vous ne les suivez pas? Non, vraiment, nous avons en horreur, ainsi que ceux qui les pratiquent. Il est vrai que ce peuple avait d'abord été choisi de Dieu, et tout le reste de la terre rejeté. Ensuite, toute la terre a été appelée, et ce même peuple proscrit. Mais n'admirez-vous pas, monsieur, la sagesse du Dieu qui nous adorons? Nous voulons aussi vous faire admirer sa bonté. Il avait défendu au peuple juif, sous les plus grandes peines, de manger du cochon. Et Dieu s'est fait homme tout exprès pour changer cela. Depuis 1700 ans, nous mangeons du cochon tant qu'il nous plaît. Et par reconnaissance, nous brûlons ceux qui n'en mangent pas. À merveille, mais expliquez-moi, je vous prie, ces mots proscrits, rejetés, que je n'entends pas bien. Ben, il signifie que tous ceux qui n'adorent pas notre Dieu et qui ne lui rendent pas le même culte que nous sont condamnés dans notre vie à des flammes éternelles. Oui, je comprends, mais puisque tous les hommes ont été appelés à votre nouvelle religion, pourquoi n'a-t-elle jamais été connue dans le pays où je suis né? Mystère, monsieur, mystère! Mais croyez-vous être le seul qui n'ayez point connaissance de cette nouvelle religion? Bien, je l'imagine, du moins d'après vos principes. Mais apprenez que le christianisme a rampé d'abord sur la terre pendant plusieurs siècles, ignoré, caché, répandu lentement dans le peuple. Quelques souverains l'adoptèrent. Alors, ses progrès se firent plus rapidement et d'une manière éclatante. Mais dans son plus haut point de grandeur, jamais il n'est parvenu à occuper la 15e partie de la terre. Et les 14 autres parties de la terre ne produisent que des damnés. Bon, rien n'est plus certain, et gardez-vous bien d'en douter. Vous seriez damné vous-même. Cela me paraît bien dur, mais sans doute votre Dieu, votre religion, ont été annoncés à tous les peuples. C'est leur faute s'ils persistent dans l'erreur. Vous vous pressez toujours trop tôt de juger. Apprenez que les trois quarts de la terre n'ont jamais eu ni pu avoir connaissance de notre religion, du moins pendant 1500 ans. Nous ignorions encore l'art de la navigation, nous ne pouvions traverser les mers immenses qui nous séparaient d'eux, pour aller les instruire de nos dogmes et de notre culte. Et ces gens-là étaient damnés pour n'avoir pas connu ce qu'ils ne pouvaient pas connaître. Sans doute, oui, depuis 3 siècles, l'art de naviguer nous a mis à portée d'aller instruire quelques-uns de ces peuples, seulement sur les côtes, car il doit être impossible de pénétrer bien avant dans les terres. Nous avons fait quelques prosélytes, et ceux qui ne peuvent croire que 3 ne font qu'un. Mais monsieur, nous les égorgeons, toutes les fois que nous sommes les plus forts. Oh, barbare! Prenez garde à ce que vous dites. Nous vengeons notre Dieu, qu'ils ne veulent pas reconnaître. Nous voulons lui gagner des armes, elle résiste, il faut bien punir leur obstination. Mais messieurs, croyez-vous votre Dieu tout-puissant? Certainement. Alors, il est tout-puissant et vous pensez qu'il a besoin de votre secours pour gagner des âmes. Et vous vous chargez du soin de punir pour lui et de le venger? Mais quelle terrible inconséquence! Et votre Dieu vous a-t-il ordonné expressément d'égorger vos frères en son nom? Non, pas précisément, mais nous avons l'art d'interpréter ses volontés. On voit bien que vous ne savez pas ce que c'est que le zèle de la gloire de Dieu et l'extrême envie de lui plaire. Mais le moyen que vous choisissez, c'est de massacrer ces créatures. Je frémissais de tant d'absurdité et d'horreur. Mais, faisant effort sur moi-même pour achever de m'instruire, je leur demandai quel était leur culte. Ils me dirent « Oh, vous allez voir. Voilà le prêtre qui monte à l'autel. Suivez les cérémonies. » Je vis en effet cet homme singulièrement et richement vêtu, se courber, se relever, se promener d'un côté à l'autre, lisant, marmottant des paroles que je n'entendais pas. Je leur dis « Mais cet homme ne parle donc pas votre langue ?»« Vraiment non, » répondirent-ils. « Toutes nos prières sont dans une langue étrangère, qui n'est guère entendue que de la millième partie de la nation. Et la plupart même des livres de notre religion sont écrits dans un langage si ancien que personne ne le comprend plus. » Je témoignais ma surprise, mais on me répéta doucement « Suivez les cérémonies. » Je vis alors le prêtre prendre entre ses mains une grande feuille de pâte. Je leur dis « Est-ce encore là, votre Dieu ?»« Pas encore, » me répliqua-t-on, « mais vous n'attendrez pas longtemps. » Je redoublai d'attention pour voir comment devenait Dieu. Le prêtre s'inclina, marmotta quelques mots, leva le morceau de pâte par-dessus sa tête. Tout le monde était prosterné, et on m'obligea d'en faire autant. Vous ne comprenez rien à tout cela. Cependant, le prêtre prit une coupe d'argent dans laquelle je lui avais vu mettre de l'eau et du vin. Il s'inclina encore, prononça des paroles, leva la coupe par-dessus sa tête. Interdit, étonné, je demandai l'explication de ce que je voyais. On me répondit, « Mais ce morceau de pâte que vous avez vu d'abord et que vous voyez encore, ce vin, cette eau qui se renfermait dans cette coupe, existait tout à l'heure ?» Il n'existe plus. Mais comment il n'existe plus? Et je les vois comme je les voyais auparavant. N'importe, me dit-il, vos sens vous trompent. D'abord, c'était en effet de la pâte, c'était du vin et de l'eau. À présent, par le moyen des paroles que le prêtre vient de prononcer, cette pâte s'est anéantie, elle est devenue le corps même de notre Dieu. Cette eau et ce vin ont cessé d'être, ils sont devenus le sang de Dieu. Êtes-vous au fait à présent? Convenez que voilà un beau mystère. Admirable en effet. Le corps de Dieu d'un côté et son sang de l'autre. Que cela est heureusement imaginé. Mais messieurs, êtes-vous bien assurés de ce que vous me dites? Mais comment pouvez-vous douter? Le prêtre a dit les paroles. Et votre Dieu est obligé de s'y soumettre, de se rendre à point nommé. Sans doute. Mais j'avais ouï dire que Dieu avait créé l'homme. Mais ici, c'est l'homme qui crée Dieu. Oui, monsieur. Et vous pouvez tous opérer ce prodige? Oh non, il n'y a parmi nous que les prêtres qui aient ce pouvoir. Mais qu'est-ce que les prêtres? Ce sont des hommes qui embrassent cet état pour vivre et à qui on donne 10 sols pour faire ce prodige. Bon, cela ne me paraît pas cher. Ils ne font apparemment qu'une seule fois dans leur vie. Non, point du tout. Ils le peuvent à toute heure, à tout moment. Mais pour l'ordinaire, ils se contentent d'une seule fois par jour. En vérité, cela me paraît bien modeste de leur part. Vous avez donc chaque jour autant de dieux que de prêtres. Oui, vous y êtes précisément. Et avez-vous beaucoup de prêtres? Un nombre presque infini. Et par conséquent, un nombre presque infini de dieux. Ah, messieurs, la belle manufacture que vous avez là, je suis dans un étonnement. Ne vous pressez pas de vous étonner, me dirent-ils. Vous n'êtes pas au bout. Apparemment, leur dis-je alors, qu'il n'y a qu'un seul de vos prêtres qui fasse cette cérémonie à une heure fixée. Votre Dieu ne pourrait se trouver en 2 endroits à la fois. Bien, vous vous trompez encore. Il y a peut-être en ce moment même 500 000 prêtres qui prononcent ces mêmes paroles. Et 500 000 dieux créés à la fois au même instant. Oui, monsieur, c'est absolument un seul et même Dieu partout. Et les 500 000 dieux ne font qu'un? À merveille, vous voyez bien que cela va tout seul et que rien n'est plus aisé à comprendre. Vous l'avez saisi d'abord, mais ne perdez pas le bret de vue et observez attentivement ce qu'il fait. Je levai les yeux et je l'aperçus qui rompait la feuille de pâte entre ses doigts. Je frémis et ne pus m'empêcher de m'écrier: Ah, monsieur, mais voilà le prêtre qui casse les bras et les jambes à votre Dieu! Ils se mirent à sourire et me dirent avec douleur: Ne craignez rien. Il l'a divisé en trois parties, il est vrai, mais c'est sans lui faire aucun mal, car le corps de Dieu se trouve à présent tout entier dans chacune de ces trois parties. Et vous devez convenir que cela se comprend aussi aisément que tout le reste. Je fus obligé de l'avouer. En même temps, je remarquai que le prêtre mettait un petit morceau de pâte dans la coupe où était le sang. Étonné encore, je leur dis: Le voilà qui met le corps dans le sang. Il me semble au contraire que c'est le sang qui devrait être dans le corps. Ils se moquèrent de moi et me dirent de ne pas insister sur ces bagatelles et que j'allais voir bien autre chose. En effet, je vis ce prêtre qui pliait proprement les deux grandes parties de la feuille de pâte, l'une sur l'autre. Il se frappa trois fois la poitrine, il approcha sa bouche. Jugez de ma surprise. Je le vis saisir son Dieu entre les dents, lui faire craquer les os, le manger, le dévorer, l'avaler enfin et l'absorber dans son estomac. On me dit: Vous voilà bien étonné. Vous ignoriez qu'un homme pût manger Dieu. Vous voyez pourtant que cela est bientôt fait. Ah, messieurs, leur dis-je, il en a mangé 30 pour le moins, car j'ai bien vu qu'il l'a mâché assez longtemps. Il n'a pu s'en le diviser entre ses dents. Et vous venez me dire que dans chaque partie, il reconnaissait un Dieu tout entier. Eh bien, 30 fois, me répondit-on. J'avoue, repris-je alors, qu'il était bien juste qu'il les mangeât, puisqu'il les avait faits. Mais comment a-t-il pu faire qu'une bouchée de ce corps tout entier, ou plutôt de ces 30 corps? Comment le goût de la chair de cet homme Dieu ne l'a-t-il pas fait frémir? Mais vous n'y êtes pas, reprirent-ils. Il a senti que le volume et le goût de la petite feuille de pâte, ne nous l'avons pas dit que toutes ces apparences continuaient de subsister. Ah, c'est-à-dire que votre Dieu, après avoir fait un miracle pour venir là, en opéra un second pour vous en faire douter. Oui, monsieur, afin que nous ayons du mérite à croire. Je vois, messieurs, que vous n'en êtes pas les dupes et que vous ne donnez pas dans ces pièges-là. Mais sans doute votre Dieu a enseigné formellement et évidemment ce dogme. Il a institué distinctement le sacrifice et toutes les cérémonies. Il a créé des prêtres. Non, rien de tout cela. On ne trouve dans son histoire écrite par ses disciples ni ses sacrifices, ni ses mystères, ni ses prêtres, ni ses prodiges sans nombre. Mais nous lisons dans cette histoire qu'étant un soir à souper avec ses amis, il prit par forme de conversation un morceau de pain qu'il partagea avec eux en leur disant: Ceci est mon corps, et quand vous ferez ces choses, vous les ferez en mémoire de moi. Il n'a jamais dit que ce peu de mots sur cette importante matière. Et 100 auteurs ont travaillé et ont écrit sur ce passage et en ont enfin tiré cette admirable doctrine que nous venons de vous enseigner. Il fallait que ce fussent d'habiles gens. Oh, nous vous en faisons juge. Il faut vous dire aussi qu'ils étaient tous prêtres. Ah oui, c'est-à-dire de ceux qui se vantent de faire le miracle. Oui, monsieur. Eh bien, je suis un peu moins étonné que je n'étais d'abord. Malgré une autorité si décisive, des nations entières ont altéré, ont défiguré, ont nié ce dogme. Il a fallu le défendre les armes à la main. Et il n'en a guère coûté que 300 ou 400 000 hommes pour le conserver dans toute sa pureté, chez quelques peuples seulement, car il a été aboli chez beaucoup d'autres. Cependant, un d'entre eux me tira doucement par la manche et me dit: Suivez ce qui se passe à l'autel. J'obéis. Le prêtre tira une petite clé de sa poche. Il appliqua une petite serrure et ouvrit une petite niche obscure qui était au milieu de l'autel. Il s'inclina, porta sa main dans la niche et en retira un vase d'argent. Il découvrit le vase et retira avec le bout des doigts une très petite feuille de pâte, se retourna vers les spectateurs, descendit de l'autel, s'approcha d'une balustrade couverte d'une nappe, et tous les assistants s'avancèrent l'un après l'autre, prirent un bout de la nappe sur leurs mains, baissèrent les yeux, levèrent la tête, tirèrent la langue. Le prêtre les parcourait tous et leur plaçait sur la langue le petit morceau de pâte. Quand tout cela fut fini, je leur demandai l'explication, selon mon usage. Ils me dirent tranquillement, « Oh, ce sont autant de dieux que nous avons mangé, de quoi êtes-vous étonnés ? Il me semble que chacun son dieu, c'est pas trop. Quoi, messieurs, ce vase que le prêtre a tiré de ce petit cachot noir était tout plein de dieux ? Oui, vraiment, tant qu'il ne peut en tenir, tous couchés les uns sur les autres en attendant qu'on les mange. Tous les jours, la table est dressée, comme vous voyez, la nappe est mise, et tout homme qui se sent en appétit spirituel peut venir se régaler dévotement. Ah, le matin et l'après-midi, non, le matin seulement. Ah oui, je comprends, vous ne mangez votre Dieu qu'à déjeuner. Et dans tous vos temples, est-ce la même chose ? N'en doutez pas, dans tous les pays où notre religion est établie, il se consomme peut-être, bon an, mal an, 100 ou 200 millions de dieux. Et répétez ce nombre jusqu'à la fin du monde, ajoutez-y le grand nombre de siècles qui se sont écoulés depuis l'établissement de notre culte, et vous verrez des milliards de morceaux de pâte de dieux, de métamorphoses, de prodiges et d'estomacs humains changés en temple de la divinité. Ah, messieurs, l'admirable religion, nos champs sont couverts de moissons, il n'y a pas un seul grain de blé qui ne puisse au besoin devenir un dieu. Vous n'en dites pas assez, messieurs, car d'après vos principes, vous n'avez qu'à briser en particules insensibles tous les morceaux de pâte, le tout sans faire aucun mal à votre dieu, car ce serait bien dommage, et en ce cas, vous multipliez vos yeux comme les sables de la mer. Et je découvre encore que, comme il y a dans le sein de la terre une infinité de portions de matière qui peuvent devenir du blé et de la farine, toutes ces multitudes innombrables de particules n'attendent qu'un heureux hasard pour être autant de dieux. J'aperçois dans un tas de fumier des milliers d'êtres divins possibles. Vos latrines même en regorgent. Il n'y a pas une partie de vos cadavres qui ne puisse à son tour devenir une divinité. « On ne peut pas mieux raisonner, dirent-ils alors. Vous avez saisi toute la fécondité des principes. Mais, repris-je aussitôt, il me reste une question à vous faire. Quand vous avez mangé votre Dieu, vous êtes donc vous-même autant de dieux ambulants. Et s'il plaisait à l'un de vos prêtres de se nourrir uniquement de cette pâte divine, tout son corps à la longue ne serait donc plus qu'une coagulation de Dieu. Et s'il allait à la garde-robe, ses excréments seraient encore des dieux, et vous tiendriez sans doute un grand honneur de les manger. Ah, oh, vous vous trompez ici, me dirent-ils froidement. Mais, messieurs, comment la chose peut-elle n'être pas ainsi? J'ai bien voulu ne pas vous contester la destruction et l'anéantissement de votre pâte, de votre eau et de votre vin. Mais Dieu ne peut être ni détruit ni anéanti, et s'il ne peut l'être, ma conséquence est nécessaire et évidente. Puisque vous mangez Dieu, ou vous le digérez, ou vous le rendez par les selles, pardonnez-moi le terme. Ni l'un ni l'autre, me dirent-ils. Notre Dieu, il est vrai, prend un singulier plaisir à être mangé. On ne peut rien faire qui lui soit plus agréable. Ah, la bonne heure, on ne discute pas des goûts. Mais, monsieur, de ce qu'il aime à entrer dans notre bouche, il ne s'ensuit pas qu'il veuille s'enterrer dans notre estomac, ni sortir par notre derrière. Notre Dieu est décent, et nous pourrions de croire qu'il n'habite jamais dans un pot de chambre. Écoutez bien comment la chose se passe. Aussitôt que Dieu est descendu dans notre estomac, la pâte, l'eau et le vin renaissent, et il n'est plus question de Dieu. Il sort sans doute par en haut ou par en bas. Mais il ne sort point. Alors il reste donc, Mais reste pas non plus. Mais que devient-il donc, car enfin il faut qu'il sorte ou qu'il reste, ou bien qu'il s'anéantisse. Et je vous avoue qu'un dieu qui s'anéantit ne m'en impose point du tout et qu'il me donne très mauvaise opinion de lui. Mais prenez garde à ce que vous dites, notre dieu ne s'anéantit point. Bon, eh bien, je ne veux pas discuter, je me bornerai à une expression qui pourra peut-être vous satisfaire. Il a d'abord escamoté le pain et le vin, et il finit par s'escamoter lui-même. Le terme n'est pas noble, mais nous voulons bien vous le passer, puisqu'il ne rend pas mal l'idée que nous avons de cet adorable mystère. D'ailleurs, il s'agit de vous gagner à notre sainte religion. Nous vous devons quelque condescendance. Ne vous sentez-vous pas merveilleusement édifié? Notre Dieu ne vous paraît-il pas grand et sublime? Sa doctrine, sa vie, ses mystères, tout ne vous semble-t-il pas marqué au coin de la divinité? J'hésitais à répondre. Allons, mon cher enfant, reprirent-ils. Soumettez-vous, ne résistez plus. Je craignais de les choquer. Je le disais mot, alors ils s'approchèrent de moi avec un vase plein d'eau. Ils me prièrent avec beaucoup de politesse de permettre que l'on versât quelques gouttes de cette eau sur ma tête. Je suis complaisant de mon naturel, je ne fis aucune difficulté d'y consentir, d'autant plus qu'ils paraissaient le souhaiter avec beaucoup d'empressement. L'eau fut versée, ils m'essuyèrent ensuite très proprement, ils me sautèrent au col, ils s'écriaient « Vous êtes notre frère, vous êtes chrétien !» Toute cette cérémonie finit par un grand dîner. Un des chapelains prit beaucoup d'amitié pour moi en buvant, il me dit, le secret de l'Église. « Toutes ces inepties, dit-il, furent inventées par des fanatiques et protégées par des fripons. Les uns et les autres trouvèrent leur compte à tromper les hommes. Les énergues humaines nourrissaient leur orgueil en faisant des prosélytes. Les gens adroits mirent l'argent des uns et des autres dans leurs poches. Et quand la folie et l'intérêt se joignent ensemble, cela va loin. La raison est venue trop tard, elle n'a pu résister au torrent. Et nous serons le peuple le plus absurde de la terre jusqu'à ce qu'enfin la voix des honnêtes gens qui détestent les infâmes puisse se faire entendre. Je levai les épaules de pitié, j'embrassai mon homme et je retournai bien vite dans mon pays. »